Interview.
Interview toujours aux rencontres de l'écologie, avec ce titre « Se relier, rêver, résister » pour l'édition 2026. Face à moi, nous avons Charlotte Meyer. Bonjour.
Bonjour.
Charlotte Meyer, vous êtes rédactrice en chef de la revue Combat. Vous nous expliquerez ce qu'elle est. Et puis, vous êtes ici aussi pour une conférence qui s'intitule « Parents écolos, nos enfants nous obligent ». Ça se passera à la médiathèque à 16h, tout à l'heure. Donc. Et donc, la proposition, c'est relatif à la parentalité qui devient le terreau d'une révolution invisible et la famille, le moteur de changement pour un avenir durable. Donc, nous allons aborder un peu ces données. Et avant tout, cette revue Combat, donc vous êtes rédactrice en chef. En quoi consiste-t-elle ?
Alors, Combat, c'est une revue que j'ai créée quand j'étais étudiante en 2016. Ça s'appelait Combat Jeune à l'époque. C'était la revue d'Albert Camus que j'avais repris. Donc, j'avais eu l'autorisation de la fille d'Albert Camus pour reprendre ce média qui a brassé 60 jeunes pendant plusieurs années. Et quand on a tous été diplômés, c'est un média que je voulais laisser de côté parce qu'à l'origine, je me dirigeais vers le journalisme de guerre. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a eu le confinement. Donc, le journalisme de guerre, il s'est retrouvé un peu de côté. Et puis, on s'était tellement attaché à ce média qu'on a décidé finalement de le professionnaliser. Que ce soit plus un média jeune, mais un média à part entière. Et donc, il a beaucoup grandi. On était très jeunes. Il a grandi avec nous, avec les profils qui se sont succédés. Et aujourd'hui, Combat, c'est la revue de la révolution écologique et sociale par les femmes. On a un site, on a un numéro papier trimestriel, on organise des conférences partout en France, on a lancé un book club féministe aussi. Donc voilà, c'est un média indépendant qui propose énormément de sujets avec un angle féministe, social et écologique.
Qui dit indépendant dit sans publicité.
Exactement.
Combat, donc là j'ai sous les yeux la version numérique, mais vous proposez aussi la version papier.
Oui, c'est ça.
Il y a un tirage assez conséquent de cette édition.
Alors ça a changé récemment aussi. Avant, on faisait un énorme numéro entre 100 et 150 pages trimestrielles. Et on s'est rendu compte que en fait, ça nous coûtait très cher à faire et donc ça coûtait aussi cher aux consommateurs. Et nous, ce qu'on voulait, c'était être un vrai média militant, engagé, qui soit accessible à tous. Donc c'est devenu depuis un an un média beaucoup plus petit. C'est en format A5, qui a 40 pages. On vend ça à 4,90 €. Et qui est, alors c'est pas les mêmes articles que sur notre site, généralement c'est thématique, mais c'est toujours des articles très engagés sur voilà, des grandes thématiques actuelles. On y parle de culture, on y parle de militantisme, voilà. Et c'est trimestriel.
Et vous abordez toute l'actualité, du moins. Cette édition à 4,50 € est disponible comment ? Par votre site ou alors vous en avez quelques-uns disposés dans certaines librairies ?
Alors on en a dans des librairies indépendantes et sur notre site. Et après, on les vend lors de nos conférences ou avec des médias partenaires. On a créé un collectif qui s'appelle Contre-soirée, avec des médias indépendants qui ont un peu le même gabarit que le nôtre, parce qu'il faut savoir que même dans la presse indépendante, il y a une hiérarchie, qu'on peut très vite se faire dévorer par les gros médias indépendants. Et donc, quand on fait des événements avec ces médias partenaires, on peut aussi le vendre à ce moment-là.
Alors, parents écolos, nos enfants nous obligent, c'est une proposition émanant de vous-même.
Oui, bah c'est toute l'origine de mon livre qui est sorti il y a un an, Les enfants de l'apocalypse. En fait, il y a quelques années, j'avais décidé de renoncer à la parentalité, pas par manque de désir d'enfant, mais parce que l'avenir dans lequel il allait naître me faisait peur. Voilà, je disais avant, je me dirigeais vers le journalisme de guerre, c'est pas forcément un contexte qui donne envie de faire un enfant. Je me suis réorientée vers l'écologie en pensant faire du positif, c'était pas si optimiste que ça. Et donc j'ai décidé de renoncer à la parentalité parce que j'avais peur du monde qui arrivait, j'avais peur de ne pas pouvoir protéger un enfant dans ce monde-là. Et un jour, je suis partie en reportage itinérant avec mon conjoint et il se trouve qu'au bout de quelques mois, je tombe enceinte. Il paraît que c'est une expression qu'on dit plus trop, tomber enceinte, tellement aujourd'hui on a le contrôle, en tout cas en Occident, en France, sur les naissances. Et donc je tombe enceinte et à ce moment-là, même si j'ai très envie de garder cet enfant au fond de moi, je me dis c'est pas possible, on avait des idées qu'on n'en aurait pas pour des raisons qui nous paraissaient très rationnelles à l'époque. Et donc, je prends rendez-vous pour une IVG. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on est sur un écolieu, donc un gros désert médical, et que l'IVG, on me la programme pour 6 semaines plus tard. 6 semaines, c'est énorme quand on a envie de cette petite enfant qui pousse dans son ventre et qu'on décide de renoncer. Et pendant 6 semaines, moi, je vis dans un univers un peu parallèle où je parle à mon enfant toutes les nuits. Je l'imagine, je me souviens que j'imaginais beaucoup apprendre à faire du vélo avec son papa. J'imaginais que ce serait un petit garçon. Je le vivais déjà, j'étais déjà maman. Et la veille de l'opération, je vais voir mon conjoint et je lui dis « je ne passerai pas à la porte du bloc opératoire ». Et je ne peux pas, je me sens aujourd'hui plus la force d'aller de créer des mondes alternatifs pour mettre au monde un enfant dans une société que peut-être on aura réussi à changer pour permettre que demain existe, plutôt que de renoncer à cet enfant, parce que c'est aussi renoncer à demain et renoncer à ce qui, moi, me semblait le plus juste à ce moment-là.
Et d'où la tenue de cette conférence qui aborde la parentalité en tant que terreau aussi pour une révolution invisible. On enseigne à l'enfant ses connaissances, sa vision. C'est en quelque sorte qui va parfois à contrario du mouvement général. Et donc pour vous, il y a une importance qui est arrivée avec cette naissance.
C'est ça. C'est-à-dire que donc, comme je disais, à ce moment-là, j'étais en reportage itinérant à l'origine pour parler de toutes les alternatives locales qui se mettaient en place dans les territoires. Et à partir du moment où, avec mon conjoint, on a décidé de garder cet enfant, on s'est dit « Ok, on change de sujet ». Et le livre qu'on avait commencé à écrire, ce sera sur les parentalités alternatives et comment faire famille aujourd'hui face au changement climatique. Et donc, on est allé à la rencontre pendant 3 ans d'une 50aine de familles qui vivent de manière alternative, comme l'avait dit, à contre-courant de ce que la société nous impose comme modèle. Et ça va être alors autant des familles nomades, on a rencontré des familles nomades qui vivent à vélo, donc vraiment des petites filles qui sont nées limite au bord de la route, quoi, qui ont toujours été nomades. On a rencontré des familles qui vivent sur des écolieux, une maman solo qui vit sur une ZAD, des personnes qui font l'instruction en famille, des personnes qui accouchent à la maison, enfin vraiment toutes les personnes qui sèment un peu des chemins de traverse pour réinventer la parentalité et transmettre à leurs enfants des valeurs que la société aujourd'hui ne transmet plus pour que demain soit plus vivable et que demain nos enfants soient armés aussi face au monde qui les attend et en faire quelque chose de plus beau.
Antérieurement à la naissance, vous aviez donc cette crainte par rapport à l'avenir de la planète, donc ce choix de ne pas vouloir avoir d'enfants. Est-ce que c'est assez répandu, cette notion de ne pas vouloir d'enfants ?
Alors, j'ai 27 ans.
Oui.
Dans le cadre de ma génération, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ne veulent pas d'enfants parce que, pour les mêmes raisons que moi, donc parce que faire un enfant aujourd'hui peut faire peur. J'ai même rencontré des femmes qui se faisaient ligaturer les trompes parce qu'elles savaient qu'elles voudraient un enfant, mais que pour elles, c'était pas le choix le plus juste. On est aussi quand même dans une époque où on a accès à l'information de manière permanente. C'est aussi ça qui change par rapport aux générations précédentes où... Finalement, historiquement parlant, il n'y a jamais eu un moment où c'était hyper fun de faire un enfant. Il y a eu des contextes de guerre, il y a eu des contextes extrêmement nucléaires, mais il y a des siècles où on avait une mortalité infantile qui était très élevée. Mais je pense que la différence, c'est qu'aujourd'hui, on est surinformé et beaucoup par des informations qui sont très négatives. L'autre chose, c'est qu'il y a aussi des personnes qui refusent d'avoir des enfants parce qu'on parle beaucoup du poids écologique de l'enfant, du coût écologique. Il y a une étude qui a circulé en 2016 qui disait qu'avoir un enfant, c'était l'équivalent de 58 tonnes de CO2 par an. En fait, c'est un chiffre où même les chercheurs sont revenus après sur l'étude en disant « en fait, c'est complètement hypothétique parce que c'est un chiffre qui calcule non seulement le bilan carbone de notre enfant, mais celui aussi de toute sa descendance, comme si on était responsable de s'il allait prendre l'avion dans 10 ans. »
Vous mettez un accent sur parents écologistes. Est-ce que c'est vraiment la catégorie que vous ciblez ou alors ça peut aller au-delà aussi des opinions ?
Alors, écolo, ça veut dire un peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a une dimension politique, il y a une dimension plus spirituelle. C'est devenu un peu un fourre-tout. Moi, quand je parlais de parentalité écolo, je m'adresse surtout aux personnes qui sont conscientes du monde dans lequel on vit aujourd'hui, vers lequel on s'oriente et qui ont envie de changer les choses, qui ne se reconnaissent pas dans ce modèle-là.
Voilà. Vous parliez donc de cette information qui nous submerge par les médias de tout poil. Et vous-même avez donc décidé de créer Combat avec d'autres. Et cette information que vous proposez diffère vraiment de ce qu'on peut être gavé, je dirais.
Alors, bon, déjà, je pense que si on crée un média aujourd'hui, c'est pour proposer quelque chose d'alternatif. Sinon, le gâteau est tellement déjà petit à se partager entre médias qu'il faut proposer quelque chose de différent. On essaye. La première chose, c'est qu'on ne fait pas de l'actualité chaude. On produit plutôt des enquêtes au long cours. On fait beaucoup de portraits aussi, du reportage. Et c'est un article par jour uniquement sur notre site. Donc, on n'est pas dans l'infobésité, ce qu'on appelle l'infobésité, donc le fait de produire de l'information en masse. On va essayer de chercher des choses, des projets alternatifs, mettre en lumière des choses qui se font pour... des projets alternatifs, en fait, dans les territoires. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'à côté de Combat, je suis journaliste pour la rubrique Planète des Échos, où là, ma grande mission, c'est un peu de partir à la rencontre de personnes qui proposent des modèles différents aussi, de montrer ce qui se fait en termes de solutions. On parle de plus en plus du journalisme de solutions qui est né à l'origine dans les pays anglophones et qui arrive tout doucement en France. Et ça, c'est quelque chose vers lequel je m'oriente beaucoup. Et je pense que ça peut beaucoup aider les lecteurs, les lectrices et de manière générale la société à voir qu'il y a d'autres choses qui peuvent se mettre en place. En fait, moi, ce jour, je me suis rendu compte en écrivant ce livre, c'est que on a tendance à faire ce que la société nous impose sans même nous questionner sur quelles sont les autres manières de faire qui seraient possibles, sans même parfois savoir qu'elles sont légales. Par exemple, accoucher à la maison, aujourd'hui, pour une femme, c'est tout à fait légal, mais les femmes ne le savent pas. On est quand même dans un contexte où on ne sait même pas ce qu'on a le droit de faire avec notre propre corps. Et donc, moi, j'aime bien informer les personnes, parce qu'en fait, il est possible de faire ce qu'elles sont capables de faire.
Vous êtes aussi chercheuse. En quoi ?
Alors, ma casquette de chercheuse, elle est un peu poussiéreuse en ce moment. Hein. Je veux dire qu'entre les combats, les échos, mon enfant, l'écriture de plusieurs livres un peu de manière parallèle. Alors, j'ai diplômé de deux masters de recherche, donc un en littérature française où je me suis beaucoup questionnée sur la parole du pauvre en littérature, et de Sciences Po où j'ai travaillé sur la protection des journalistes de guerre parce qu'à l'origine, ce que je voulais faire. Et ensuite, je me suis un peu nichée en tant que chercheuse sur les solutions climatiques à travers le monde, et notamment, je m'étais beaucoup intéressée à ce qui se passe dans la Corne africaine, puisque la Corne africaine, aujourd'hui, c'est une des régions qui est le plus touchée par le changement climatique. Et donc, c'est des populations qui doivent redoubler d'efforts pour mettre en place des alternatives.
Écrivaine, ça, on peut l'imaginer déjà avec cette parution. Mais vous avez vous-même rédigé des ouvrages ?
Alors, avant Les Enfants de l'Apocalypse, j'avais sorti un livre sur la protection des journalistes de guerre, qui était mon gros sujet de l'époque, avant que je ne bifurque sur l'écologie. Et là, j'ai deux ouvrages en cours qui sont en train de s'écrire en parallèle, donc une fiction et puis un ouvrage toujours en lien avec le changement climatique.
Journaliste de guerre, c'était vraiment une grosse envie pour vous d'exercer ce métier. Qu'est-ce qui vous a inspiré ou donné envie ?
Alors, déjà, j'ai su que je voulais être journaliste très tôt. C'est-à-dire que souvent, on tâtonne un peu dans sa voie professionnelle. Moi, je savais depuis toute petite que ce que je voulais faire, c'était écrire. Et écrire sur le réel, écrire les histoires du vrai monde, quoi. Écrire, aller à la rencontre de personnes qui méritaient qu'on porte leur voix. J'ai lu des journalistes très tôt. J'étais une grande amoureuse d'Albert Camus dès l'adolescence. Et j'avais envie d'aller sur le terrain, j'avais envie d'aller voir les personnes qu'on n'entend pas d'habitude, de les sortir de l'ombre. Et pour moi, le journalisme de guerre, c'est ce qui s'apparentait le plus à ce que je voulais faire, parce que je voulais vraiment aller voir les personnes qui n'étaient pas sur le front, mais à l'arrière, comment était leur quotidien, qu'est-ce qu'on allait mettre en place. Je me souviens que j'avais lu, quand j'étais plus jeune, un article dans Courrier International sur... des femmes en Afghanistan qui créent des salons esthétiques clandestins. Et moi, ça m'avait passionnée. Je me disais, mais c'est ça que je veux faire. Je vais aller voir ces personnes qui sont dans la résistance. Et oui, donc j'ai passé un an au Liban. J'ai été journaliste pendant un an au Liban. J'ai été en Turquie l'année où Erdogan a perdu Istanbul. Et oui, je m'orientais vraiment là-dedans. C'était mon rêve d'enfance.
Là, vous allez proposer une conférence sur cette éducation. Alors moi, c'est une phrase qui me revient souvent. Une personne me disait, il y a une trentaine d'années, qu'à l'époque du ministère de l'Enseignement, on éduquait les enfants. Et maintenant que c'est le ministère de l'Éducation nationale, on enseigne. Donc il y a à chaque fois un décalage. Est-ce que justement, cette éducation, vous la trouvez satisfaisante dans ce qui est proposé dans les institutions, qu'elles soient publiques ou privées ?
Non, mais c'est pas un grand mystère. Hein. Je suis pas en train de lever un grand tabou.
Non, bien sûr, mais c'est bien d'avoir un avis aussi
là-dessus.
Oui.
Non, mais l'éducation publique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, déjà, elle n'est pas du tout ancrée dans les enjeux contemporains actuels. Il y a quand même beaucoup de collectifs enseignants qui existent pour essayer d'obtenir qu'on enseigne plus l'écologie, par exemple, à l'école. Aujourd'hui, c'est pas du tout un sujet. On parle à la limite pendant nos études, on va parler de croissance verte, qui est un terme qui ne veut rien dire. Et non, les programmes sont complètement hors sol. On a des classes qui sont surchargées, on a de moins en moins d'enseignants pour de plus en plus d'élèves. L'école aujourd'hui, c'est pas un endroit où on s'épanouit. Et on met aussi nos enfants de plus en plus tôt à l'école. Hein. Je me suis beaucoup intéressée à l'école à la maison, c'est ce que je voulais faire avec ma fille. Aujourd'hui, c'est très difficile hein, depuis la loi de 2021 de pouvoir faire l'école à la maison. Et en plus, on doit mettre nos enfants maintenant. Ils ont créé la toute petite section, donc la TPS, où on peut mettre nos enfants à l'école à partir de 2 ans. Parce que non seulement les écoles sont surchargées, mais les crèches aussi. Donc en fait, nos enfants nous sont retirés de plus en plus tôt dans des institutions qui ne sont plus des institutions de transmission, de savoir, de savoir-faire, de valeurs, de connaissances, mais finalement des endroits où on met nos enfants pour que les parents puissent continuer à aller travailler. Et donc toute cette substance, je me souviens que quand j'étais petite, j'avais un directeur, un instituteur et directeur de mon école primaire qui était vraiment passionné, qui nous emmenait en classe verte, qui nous était vraiment proche de la nature, il nous enseignait beaucoup de choses au niveau de l'histoire, de la géographie, des choses palpables. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est plus ça.
Il y a en principe l'éducation populaire hein, qui supplante aussi l'éducation institutionnelle. Justement, hier, on me disait que l'éducation populaire tendait aussi à faiblir. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez au fond, dans les rencontres ou dans vos constats, ou c'est une idée simplement ?
que l'éducation populaire affaiblit
C'est-à-dire qu'il y a moins d'essor pour l'éducation populaire aussi.
Alors, je pense que ça dépend des territoires.
Ici,
on est dans la Drôme, je pense que c'est pas trop le cas. Mais dans tous les cas, il y a un discours gouvernemental qui est très négatif sur tout ce qui peut se mettre d'un point de vue alternatif. Là, on parlait d'éducation populaire, c'est pareil pour l'éducation à la maison, c'est pareil même pour les écoles démocratiques qui sont de plus en plus fermées, les écoles alternatives type Montessori. Il y a une sorte de mainmise de l'État sur ces modes alternatifs-là. On veut pas qu'on fasse ces pas de côté.
Je reviens sur cette conférence. Elle s'adresse aux familles de toute génération.
Oh bah oui, bien sûr. Oui, je fais pas de jeunisme ou d'agisme.
Oui. Mais est-ce qu'il y a une vision peut-être décalée entre des générations ? Est-ce que le monde est perçu différemment parfois ?
Alors, je dirais pas que c'est entre les générations, je dirais plus que c'est en rapport avec les milieux socio-culturels, la manière dont on a été élevé, les études qu'on a faites. Moi, je me suis aperçue tout au long de ce reportage qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont fait de grandes études, qui bifurquent aujourd'hui. C'est plus trop un secret, on a de plus en plus de prises de parole de ces personnes qui décident de déserter et de prendre le contre-courant des études qu'ils ont faites. Et j'ai rencontré beaucoup d'anciens ingénieurs, par exemple, qui décident de se créer une maison dans la forêt pour élever leurs enfants. Et peut-être que c'est plus facile aussi pour eux parce qu'ils connaissent mieux les rouages institutionnels, qui savent un peu où sont les failles, où peuvent se glisser pour faire des choses qui parfois ne sont pas légales en fait.
Alors il y a cette révolution invisible, c'est comme la main invisible, l'économie s'arrange tranquillement. C'est pareil aussi pour la révolution invisible de ce qu'est la société, par la population, les familles, et puis c'est son héritage culturel. Cette révolution invisible, comment agit-elle ?
Moi, je l'ai vraiment perçu quand j'allais voir des familles qui vivent... Alors, parfois, je suis dans la forêt, mais la forêt, c'est à côté d'une ville. Hein. Enfin, on a l'impression que c'est à la marge, mais c'est si près, finalement. Et qu'en pleine semaine, un lundi après-midi, alors que tous les enfants sont à l'école, moi, je passais mon après-midi avec des enfants qui se taillaient des balançoires dans les arbres, qui apprenaient à lire presque tout seuls, qui savaient reconnaître tous les insectes de leur jardin, qui savaient reconnaître les plantes, qui étaient presque capables de s'alimenter seuls. Il y a une sorte presque de survivalisme à la Capitaine Fantastique chez ces enfants-là.
C'est ce que vous aviez vous-même, jeune, vous découvriez la Terre aussi, comme ça ?
Oh, ma génération, pas tant que ça. Non, j'ai la chance d'avoir eu des parents qui étaient très proche de la nature aussi, mais qui n'allait pas forcément remettre en question le système dans lequel on évoluait, en revanche. Et en fait, rien que ça, c'est révolutionnaire de se dire qu'à quelques kilomètres d'une école où il n'y a rien qui se passe, où vraiment on enseigne à perpétuer le système, il y a des enfants qui évoluent de manière aussi libre. Et moi, j'ai un vrai questionnement sur ce que feront ces personnes une fois adultes.
Est-ce qu'il y a aussi un moteur de cette révolution ? C'est peut-être aussi la curiosité ? Est-ce que ça, c'est un maître mot pour vous d'être curieux ?
Oui, et ça, on ne l'apprend plus vraiment. Mais encore une fois, toutes les personnes que j'ai rencontrées, elles placent un peu l'enfant au centre de leur modèle éducatif. Il y a ce qu'on appelle le homeschooling, donc c'est l'école à la maison, mais c'est les enfants qui choisissent un peu vers où ils veulent aller. Et vous savez, il y a ce proverbe africain qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant ». Moi, j'ai beaucoup allé sur des écolieux ou ce qu'on appelle des oasis, où il y a les enfants qui vont apprendre l'artisanat auprès d'un habitant et puis les plantes auprès d'un autre. Et ça, ça, bien sûr, ça nourrit la curiosité des enfants que nous, on a tendance à enfermer.
Je reviens sur cette conférence. Je ne sais pas si vous l'avez opérée dans d'autres endroits, cette proposition. Est-ce qu'il y a des questions récurrentes parmi le public qui vous arrivent ?
Il y a une vraie question sur comment faire tache d'huile, parce que finalement, tous les modèles que je montre, j'ai bien conscience que c'est des modèles qu'on ne peut pas développer, multiplier dans la société du jour au lendemain. C'est quand même c'est des personnes qui, encore une fois, ont eu accès à d'autres modes d'éducation souvent ou à d'autres savoirs pour mettre ça en place. Parfois, il faut aussi avoir un soutien économique, financier derrière. On ne peut pas du jour au lendemain décider de larguer son appartement en région parisienne pour construire une maison dans la forêt. C'est des choses qu'on n'a plus appris à faire non plus. Il y a beaucoup la question de... est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est responsable ou pas de faire un enfant ? C'est des questions auxquelles je n'ai jamais vraiment la réponse, qui sont un peu piégeuses. Mais je crois qu'il faut aller vers là où le cœur dit que c'est juste.
Alors, je reviens sur Combat, hein, sur ce site qui donc s'intéresse à tous les aspects de la société, la culture, l'international, la société, la politique, les sciences humaines, l'environnement, goutte d'eau, ça, c'est, je ne sais pas en quoi ça consiste, l'humeur et l'humour, ça, c'est aussi nécessaire. Hein. On en manque un peu, je crois, aujourd'hui.
Aussi, ouais.
Quand on écoute les médias d'aujourd'hui, il y a de quoi désespérer. Et puis, bon, les éditoriaux de chacune, des collaboratrices ou collaborateurs. D'ailleurs, vous êtes à peu près 13 personnes, je crois, j'ai compté sur
oui,
le site.
Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on n'est plus que des femmes.
D'accord. Parce que je voyais des jeunes personnes, des jeunes hommes là aussi.
Oui, c'était, c'est plus le cas.
D'accord. C'est donc une édition plutôt féministe.
Oui, absolument. On s'est vraiment défini, c'est la ligne éditoriale qui s'est définie petit à petit, parce qu'encore une fois, comme c'est un média qui s'est construit au fil du temps et de notre génération, aujourd'hui on a décidé ouvertement que c'est un média féministe.
Alors, le titre Combat, le combat de quoi ?
Bah, Combat, c'est à l'origine, c'est vraiment la reprise du média d'Albert Camus, qui était un média de résistance, et aujourd'hui on se considère toujours comme tel, c'est une résistance informationnelle, c'est déjà le simple fait d'être un média indépendant, c'est une forme de résistance. Aujourd'hui, de plus en plus de médias sont rachetés par des grands groupes, notamment le groupe Bolloré. C'est très difficile financièrement d'être un média indépendant, et nous, malgré tout, on veut produire de l'information qui soit non seulement indépendante, mais qui soit utile pour tout un chacun, qui soit la plus de qualitative possible plutôt que quantitative.
Se relier, rêver, résister, c'est le titre de cette édition des rencontres. Est-ce que cela résonne en vous ?
Oui, mais je crois que ça pourrait être presque le slogan de Combat aussi. Hein. C'est ce qu'on propose, un média de résistance, un média où on essaye aussi d'être proche de notre lectorat. On s'intéresse beaucoup à ce qu'ils préfèrent comme article, on leur demande beaucoup ce qu'ils voudraient voir sur notre site. On organise beaucoup de conférences partout en France pour avoir justement pour être proche d'eux et pas juste être un média de manière un peu hiérarchique. On dit souvent que le média, c'est un quatrième pouvoir, ce qui est vrai, mais le but, c'est aussi de pouvoir échanger et co-construire. C'est vraiment un peu un laboratoire social, Combat.
Vous abordez la politique hein, dans cette publication. C'est un regard sur l'actualité, certainement, mais aussi ce qui pourrait amener les nouvelles perspectives de la société. Est-ce que vous essayez de peser un peu ce qui est d'actualité et de voir ce qu'il y a de bon à apprendre ou à transmettre ?
Alors, la politique, c'est une rubrique qu'on alimente plus trop, on s'est un peu détaché de l'actualité très chaude.
C'est une déception de ce qui se passe en ce moment, de la politique.
Les médias parlent relativement beaucoup de ça. Encore une fois, nous, on essaie de produire un contenu qui est différent et qui soit proche des gens et qui soit quelque chose qui donne un peu plus d'optimisme. Il y a des sujets dont on ne peut pas... On ne peut pas faire l'impasse, par exemple, tout ce qui a lieu, il n'y a pas longtemps, sur les législatives. Là, il va y avoir les municipales. L'année prochaine, il y a les présidentielles. Enfin, c'est des sujets qu'on va forcément être obligé de traiter, mais en essayant de prendre un angle un peu à côté de ce qu'on va voir dans les grands médias. Maintenant, encore une fois, notre but, c'est de faire des papiers qui soient plus proches des gens, de leur quotidien, y compris dans leur territoire. Donc, de se détacher un peu de ce qu'ils voient dès qu'ils ouvrent la télé, de ce qu'ils écoutent dès qu'ils allument la radio, et plutôt de proposer quelque chose de différent.
Voilà, parce que la politique, c'est aussi un acte quotidien, et pas seulement de temps en temps aller mettre un bulletin de vote. C'est un peu cette idée-là. D'ailleurs, c'est une société apolitique, on dit, hein, maintenant, puisque c'est notre action d'aller voter. Et vous, vous êtes donc à essayer de promouvoir l'acte politique hein, au quotidien par tout le monde. C'est aussi, ça fait partie de cette révolution invisible aussi pour un avenir durable.
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on ne construit plus des petits citoyens. D'ailleurs, il y a un vrai sujet sur comment est-ce qu'aujourd'hui on réintègre nos enfants dans la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, un enfant, il n'a pas tant de droits que ça dans notre société. D'ailleurs, on a un gros sujet actuellement où l'enfant est de plus en plus retiré. Il y a eu une hausse de 25% ces dernières années des mouvements No Kids, donc des espaces où les enfants sont vraiment pas accueillis. Il y a le scandale actuel de la classe Optimum de la SNCF qui refuse qu'il y ait des enfants dans certains de ses wagons. Et moi, je m'intéresse beaucoup à ça sur... comment remettre nos enfants au cœur de la démocratie, les rendre acteurs des processus décisionnels. Il y a des villes qui le font, notamment la ville de Lyon qui a créé une délégation à la place de l'enfant dans la cité. Et qui, voilà, il y a des conseils municipaux pour les enfants, c'est les enfants qui font certains choix pour la ville. Voilà.
D'ailleurs, vous vous êtes intéressé à l'Assemblée nationale des enfants ?
Oui, alors pas profondément, mais...
Quelle fonction et quelle action peuvent-ils opérer cette Assemblée ?
Alors, ça ne va pas être des grandes décisions. Ils ne vont pas appuyer sur le bouton rouge de l'arme nucléaire. Mais ça va être plus des décisions liées au vivre ensemble. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études, notamment, je pense à Francesco Tonucci, qui est un sociologue italien, qui montre qu'une ville, donc une cité de manière plus générale, qui est adaptée aux enfants, donc qui écouterait et respecterait les choix des enfants, c'est une ville qui, en fait, serait plus adaptée à tous parce que les enfants font des choix qui sont meilleurs déjà en termes d'accès aux soins, à la culture, en termes d'écologie. C'est une société qui serait plus adaptée aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap. Et finalement, la racine d'une bonne société, c'est une racine où on pense aux enfants, puisque les enfants, c'est le temps long. Si aujourd'hui on mettait plus les enfants au cœur de nos décisions, on aurait déjà pris des mesures écologiques bien plus drastiques. On ne couperait pas autant dans le budget de l'éducation, de la culture. Enfin, voilà. Donc pour moi, la racine, c'est vraiment de revenir à l'enfance et de la reconsidérer.
Je reviens un peu sur cette notion de droit et j'étais en train de penser, plus on nous donne de droits, moins on en a en somme. Hein, c'est ça. Le combat, donc combat, le média, c'est donc 13 jeunes femmes, jeunes je pense, qui se retrouvent régulièrement pour discuter de ce qui va être écrit.
Oui, alors on est dispatché un peu partout dans la France.
Hein, oui, mais c'est bien, ça permet de prendre
absolument
la température.
Oui, oui, c'est là. On n'est vraiment pas un média parisien. Moi, je suis dans le Verdon. On en a une qui est en Savoie, on a une autre qui est en Belgique, une autre en région parisienne. Enfin, vraiment, on est vraiment dispatché. Et c'est assez intéressant parce que du coup, on arrive à faire vraiment des papiers qui sont liés au territoire et à décentrer un peu. Parce que l'écologie issue uniquement des discours parisiens, ce n'est pas une écologie qui est durable et qui peut parler à tout le monde. Et oui, on est une vraie bande d'amis. Hein. On n'est pas uniquement collègues, on est très proches, on a des réunions toutes les semaines, c'est un vrai média quoi.
C'est une presse qui va évoluant, vous avez atteint une vitesse de croisière?
Non, on a encore besoin d'évoluer, on a du mal à se salarier encore, hein. Comme je disais, c'est très difficile aujourd'hui d'être un média indépendant, il y en a qui fleurissent un peu partout alors que le budget est de moins en moins présent aussi. Non, là, le but c'est vraiment de continuer à se développer et de pouvoir notamment salarier quelqu'un à partir de septembre.
Et donc, effectivement, il y a obligation d'exercer à côté hein, des activités professionnelles en tant qu'écrivaine, par exemple, et puis chercheuse. Ça, vous avez dit que vous aviez un peu mis ça de côté. Et le journalisme de guerre, ça vous reviendra peut-être ?
Alors, j'ai une fille qui a 3 ans et demi, donc pour l'instant, oui. Voilà, on verra quand elle sera majeure. Ça, je sais que c'est quelque chose dans lequel je ne reviendrai pas tant qu'elle sera... tant que je serai responsable d'elle, mais c'est pas forcément une frustration. Moi, ça m'ouvre la porte aussi à plein de sujets. Moi, j'ai la chance de faire un métier où je peux emmener ma fille avec moi. Donc, ma fille depuis 3 ans et demi, elle me suit en reportage, en conférence, elle me suit dans mes enquêtes. Voilà, elle est avec moi aujourd'hui, et c'est une vraie source de richesse. Et c'est aussi c'est elle aussi qui va parfois soulever des sujets. Et donc moi, je profite de ça pour le moment.
Et puis la sensibilité des enfants sont aussi un vecteur d'information.
Oui, bien sûr. Mais j'ai toujours été proche du vivant, et sinon je ne ferais pas ce métier-là aujourd'hui. Mais je me souviens ma fille et nos enfants sont très curieux et ont gardé cet émerveillement face au vivant que nous on a perdu, parce que c'est quelque chose qu'on ne permet pas de garder. Je me souviens d'une fois, on se promenait avec ma fille, et en fait, on devait aller chez le médecin, donc vraiment on avait un rendez-vous. Hein. Et elle voit un escargot par terre, et elle s'assoit au milieu de la route pour regarder l'escargot. Et je pense qu'elle est restée 20 minutes à le regarder. Et je me disais, mais à quel moment c'est aussi intéressant pour qu'elle y reste? Et finalement, ça m'a fascinée. Je me suis dit, mais si on était tous comme ça, il y a tellement de problèmes qu'on n'aurait pas aujourd'hui dans la société.
Combat, donc, j'indique l'adresse, c'est combatlemedia.com. Charlotte Meyer, merci beaucoup de nous avoir donné un peu de votre temps pour nous parler donc de cette conférence, entre autres de parents écolos, nos enfants nous obligent, et aussi de cette revue Combat, le média et papier.
Merci
et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Est-ce que musicalement, vous avez des écoutes ou une proposition à faire pour mettre à la fin de l'émission ?
Il y a plein de petites artistes indépendantes qui seraient bien de passer pour changer un peu.
Dans la culture, là, par exemple, il y a des choses musicalement.
Il y a Coquelicot qui serait intéressante de passer.
s'efforcer d'affronter. T'es une effrontée, toi, toujours. Toujours s'efforcer d'affronter l'effronté pour évoluer. Faut toujours s'efforcer d'affronter, sinon tu reviens again and again avec les mêmes choses à affronter.
Je me barrer d'ici.
Quelle vie, qui s'attache, qui espère, qui cherche l'être cher, fait deuil de père et mère. Mais quelle vie, qui vogue, qui s'aventure, ignore sa vraie nature, qui rêve le temps que ça dure. Mais quelle vie, quand c'est mort dedans, enfermé, et tu te sens dans une enveloppe sans timbre. Tu cherches à t'envoyer où? Renvoyez-moi, je veux revenir au port. Des souffrances quand t'es dans le bon vaisseau, celui d'un être humain qui n'est pas là pour rien, être spirituel, vie expérience mortelle.
Elles sont à nous.
Elles sont à nous.
À qui?